Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI, députée européenne, réélue dimanche sur la liste de Valérie Ayer. Vous avez été ministre des Affaires européennes sous le gouvernement d'Édouard Philippe, dont vous avez rejoint le parti Horizon. On va évidemment évoquer avec vous l'onde de choc de la dissolution de l'Assemblée en France, mais d'abord parce que c'est évidemment l'enjeu majeur derrière les élections européennes, ces grandes manœuvres après la poussée de l'extrême droite au Parlement de Strasbourg, score historique pour le RN, pour l'AFD en Allemagne ou pour Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Est-ce que ça peut être la fin du cordon sanitaire, Nathalie Loiseau?
Alors, je ne le souhaite pas, évidemment, et je ne le crois pas non plus. Parce que derrière tous les effets de manche que l'extrême droite a fait depuis des semaines et fait encore depuis quelques jours, la réalité, c'est qu'il y a toujours, au Parlement européen, une majorité constituée des trois premiers groupes politiques, qui sont celui de la droite modérée, ce qu'on appelle le Parti Populaire Européen, celui des sociaux-démocrates et le groupe auquel j'appartiens, central et centriste, Renew Europe. Mmh. À nous trois, nous avons la majorité toujours au Parlement européen.
Oui, mais pendant la campagne, Ursula von der Leyen a fait les yeux doux, clairement, à Giorgia Meloni. Alors aujourd'hui, la présidente de la Commission dit vouloir construire un bastion contre les extrêmes de droite et de gauche. On a l'impression que tout ça est un peu mouvant et que ça pourrait évoluer en fonction des opportunités, non ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que au sein des extrêmes droites, il y a par construction des partis irréconciliables. Vous avez du côté du Rassemblement National ou de la Ligue de Monsieur Salvini ou de l'AFD un penchant pro-russe très marqué, qui est tout à fait à l'extrême par rapport à ce qu'est le parti traditionnaliste conservateur polonais ou celui de Madame Meloni. Donc, depuis très longtemps, en fait, à chaque élection européenne, Marine Le Pen nous raconte la même histoire, qu'elle va créer un très gros groupe.
Oui.
Ça ne va pas arriver.
Mais là, elle envoie quand même 30 élus dans le groupe Identité et Démocratie sur 58.
Ouais.
Elle pourrait d'ailleurs ravir la présidence du groupe à la Ligue de Matteo Salvini. Dans l'autre groupe, c'est la président du Conseil italien qui est à la manœuvre.
Ouais.
Il va falloir clairement compter avec L2 pour les 5 ans à venir.
Ah non, on ne compte pas du tout avec les députés du Rassemblement National au Parlement européen. On ne les a jamais vus, ils n'ont jamais rien fait. Ils se servent de l'Europe, mais ils ne servent à rien en Europe.
Vous nous dites que malgré les résultats de dimanche, il n'y aura pas de conséquences sur l'agenda de la Commission européenne, sur la prochaine législature, ce pacte asile-migration longuement, difficilement négocié, clairement ne sera pas remis en question ou il y a un risque malgré tout ?
Alors nous y tenons parce que nous voulons véritablement apporter des solutions. Et ce pacte asile et migration, comme vous le dites, il a fallu des années pour trouver un équilibre. Même Madame Meloni s'y est ralliée après avoir dit le contraire dans sa campagne électorale. Nous voulons des solutions pour contrôler l'immigration irrégulière, là où le Rassemblement National s'en est lavé les mains, préférant vivre avec un carburant électoral de mécontentement face à l'immigration irrégulière.
Je voudrais qu'on évoque l'Ukraine parce qu'il y a évidemment ce sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui. Giorgia Meloni, auréolée de sa victoire, accueille les dirigeants du G7. Emmanuel Macron, lui, arrive plutôt fragilisé et après le résultat, la défaite de son parti aux élections dimanche. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la politique des Européens vis-à-vis de l'Ukraine ?
Je ne le souhaite évidemment pas. D'une part, Emmanuel Macron était président de la République avant le 9 juin, il le reste après, il le restera après les législatives.
Oui, mais sa ligne très offensive dans le soutien militaire à l'Ukraine, elle est de fait aujourd'hui fragilisée, non ?
Bah, ça reste sa ligne, mais en revanche, je m'inquiète profondément des conséquences de l'élection législative si par extraordinaire, si par malheur, l'extrême droite française pro-russe venait à remporter ces élections. J'alerte sur ce risque parce que notre soutien à l'Ukraine, c'est à la fois notre devoir et c'est notre intérêt en matière de sécurité.
On va venir dans un instant à la France, Nathalie Loiseau. Simplement, le projet qui est sur la table là au G7, c'est le dégel des intérêts des avoirs russes.
Ouais.
Joe Biden propose une enveloppe de 50 milliards de dollars pour Kiev pour financer l'effort de guerre. Est-ce que c'est ça finalement le nerf de la guerre, le seul nerf de la guerre ? Parce que ce qu'attend Volodymyr Zelensky Zelensky, et il le martèle depuis des mois et des mois, ce sont des armes, des munitions, des avions, plus vite, parce que le temps joue en faveur de la Russie.
Il a évidemment raison, Volodymyr Zelensky. La priorité, c'est les armes à l'Ukraine et les munitions à l'Ukraine. Alors après, il faut les financer. Et les Européens se sont mis d'accord pour l'utilisation des intérêts des avoirs gelés, puisque ces avoirs gelés sont pour l'essentiel en Europe. Mmh. Donc c'est d'abord notre problème. En tout cas, ça nous concerne au premier chef. C'est évidemment indispensable de discuter au niveau G7 avec les États-Unis, mais n'oublions pas, ces avoirs gelés, ils sont en Europe. Et la priorité de leur utilisation, c'est pour financer les envois d'armes et de munitions. Ceux qui parlent de reconstruction de l'Ukraine ont raison, il faudra reconstruire l'Ukraine. Mais avant de reconstruire l'Ukraine, il faut éviter qu'elle soit davantage détruite, il faut l'aider à se défendre.
Mmh, et on a l'impression, effectivement, que sur le terrain, en tout cas, la dynamique n'est pas du côté, clairement, des Ukrainiens. Pour en revenir à la France, Nathalie Loiseau, comment expliquez-vous qu'on soit tombé avec la liste de Valérie Ayer dimanche soir à 14% des voix? C'était 22 il y a 5 ans lorsque vous étiez à la tête de cette liste.
C'est un crève-cœur pour moi, je vous le cache pas.
Réunion, les Français se sont servis des Européennes pour dire leur colère contre Emmanuel Macron?
Alors écoutez, il y a certainement tout un tas de raisons. Vous l'avez dit, il y avait 23 députés européens en 2019 quand j'ai conduit la liste. J'ai une pensée pour tous ceux qui ne sont pas réélus, qui sont mes collègues, qui sont mes amis. Et qui ont travaillé pendant 5 ans. Le problème, c'est que ça ne s'est pas vu. Le problème, c'est que ça ne s'est pas dit. Le problème, c'est que dans le savoir-faire, il y a aussi le faire savoir. Et s'il y a eu un plan de relance, si les emplois, si les entreprises ont été sauvées, s'il y a eu des vaccins partout en Europe, c'est parce que nous avons travaillé d'arrache-pied sur tous ces sujets-là. Si on régule le numérique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus et mieux dit? Il faut faire absolument un retour d'expérience sur cette campagne qui n'a pas été bonne, c'est clair.
Lors de sa conférence de presse hier, Emmanuel Macron a appelé au rassemblement autour de la majorité présidentielle de tous ceux qui auront su dire non aux extrêmes. Ouais. Peut-on honnêtement renvoyer dos à dos Nathalie Loiseau, l'alliance Jordan Bardella, Éric Ciotti, Marion Maréchal et l'alliance à gauche PS, PC, LFI? Est-ce que cette stratégie n'a pas montré ses limites finalement depuis 2017?
Écoutez, moi je suis bombardée d'appels, de messages, d'électeurs sociaux-démocrates qui ont cru sincèrement qu'en votant pour Raphaël Glucksmann, ils inventaient une nouvelle gauche raisonnable, modérée, progressiste, et qui se réveillent avec une nouvelle NUPS, un front populiste, avec LFI qui est loin devant, porté par le PS. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que LFI a montré depuis des années son rapport très étrange avec la République, son rapport très étrange avec la laïcité, son ambiguïté sur l'antisémitisme, sont des éléments essentiels pour les Français. Attention.
Et on mesurera donc les forces des uns et des autres au matin du 8 juillet en France après ces législatives anticipées. Merci Nathalie Loiseau d'avoir été avec nous.